Le débat africain. Alain Foucault.
2021, année électorale en Afrique, avec plus de 5 scrutins présidentiels au sud du Sahara. Mais si dans l'immense majorité, les présidents en exercice briguent un nouveau mandat, très souvent dans un climat tendu comme au Tchad, au Congo ou au Bénin, dans le cas du Niger, c'est certain, on s'achemine le mois prochain vers une alternance, puisque le président Mahamadou Issoufou, après 2 mandats, n'est pas candidat. Mais qui pour lui succéder? Son dauphin désigné Mohamed Bazoum arrivé en tête au premier tour, ou l'ancien président Mahamane Ousmane arrivé deuxième? À Niamey et dans tout le pays, les tractations vont bon train et le ton s'est considérablement durci dans les différents camps ces derniers jours. Le Niger, dans ce climat, pourra-t-il consolider sa maturité démocratique? Quel report possible de voix dans le climat de tension actuel? Les bases respecteront-elles les consignes des leaders? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au second tour de la présidentielle au Niger, avec plusieurs invités au téléphone en direct de Niamey, la capitale. D'abord, Monsieur Boubacar Sabo, le secrétaire aux élections du comité exécutif national du PNDS, Taraya, le parti au pouvoir, et président de la commission électorale de la campagne du candidat Mohamed Bazoum. Bonjour, Monsieur Boubacar Sabo.
Bonjour, Alain Foucault.
Notre second invité est Monsieur Ibrahim Hamidou, journaliste, membre de la cellule de communication de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021, coalition qui soutient Mahamane Ousmane, le candidat du Renouveau démocratique et républicain, RDR Tchandji. Bonjour, Monsieur Ibrahim Hamidou.
Bonjour Alain Foucault.
Troisième invité de ce plateau présidentiel, Niger, Dr Amadou Hassan Boubacar, juriste constitutionnaliste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour Dr Amadou Hassan Boubacar.
Bonjour Monsieur Alain Foucault.
Notre quatrième invité aujourd'hui est Nuhu Arzika, acteur de la société civile, président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR. Bonjour Nuhu Arzika.
Bonjour, Monsieur Alain Foucault.
Alors, je commence par vous, Monsieur Arzika. Avance-t-on vers un second tour apaisé dimanche prochain au Niger?
On l'espère et c'est notre grand espoir.
C'est le grand...
Nous réussissons à organiser des élections dans la paix, le calme et la tranquillité et que les choses se passent au mieux de ce qu'a prévu nos textes et fondamentaux en la matière. Maintenant, évidemment, vous le savez, c'est sous tension, sous haute tension, parce qu'il y a un déséquilibre, malheureusement, avec lequel notre processus a commencé. Et ce déséquilibre reste un boulet qui est au pied de notre processus électoral, malheureusement.
Alors, quand vous dites déséquilibre, de quoi parlez-vous exactement?
Je parle du premier déséquilibre, c'est le non-respect fondamental de la loi de notre pays, notre constitution, et naturellement, ce qui concerne pour les deux candidats, il y a un des candidats qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas réussi à convaincre et l'opinion des Nigériens sur les conditions exigées par la constitution de notre pays à son article 47. Qui prévoit qu'il faut justifier de la nationalité nigérienne d'origine avec des informations claires, nettes et précises, sur la base de documents clairs, nets et précis, qui n'ont jamais pu être rendus disponibles.
Je vois que vous parlez de la nationalité du président Mohamed Bazoum, mais la Cour constitutionnelle a statué déjà sur cette situation. S'il y a bien eu un premier tour, c'est que c'était soldé cette question, non?
Non, vous le savez, la Cour constitutionnelle, elle a pris des décisions qu'elle est venue à prendre, mais les actes qu'elle est venue à prendre, notamment l'acte, son arrêt numéro 7 et son arrêt numéro 10, sont venus ajouter à la confusion et cela reste dans l'esprit de tous les Nigériens qui n'ont pas encore véritablement été convaincu par une décision claire et nette qui puisse les permettre de considérer que ce dossier doit être derrière nous. C'est vrai, moi, en ce qui me concerne personnellement, j'aurais aimé que nous n'ayons pas ce dossier-là à gérer. Nous n'ayons pas ce problème-là et dans le cadre de notre processus électoral. On aurait pu avoir, sans que cela ne soit véritablement posé, soulevé, et que nous ayons les deux candidats, parce que ces deux candidats, ces deux personnalités que nous avons eu l'occasion et la chance de
connaître. C'est des personnalités qui sont connues dans l'environnement nigérien, dans l'environnement politique nigérien. Docteur Amadou Hassan Boubacar, c'est vrai que cette question revient en permanence. Dès qu'on parle des élections au Niger, on parle de la nationalité de Mohamed Bazoum, qui est pourtant le premier au premier tour. Est-ce que ce n'est pas soldé cette question après la décision de la Cour constitutionnelle?
Merci, monsieur Alain Foucault. Effectivement, en ce qui me concerne, en tant que juriste respectueux de la fonction que je défends by to by, quel qu'en soit ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je pense que ce arrêt est derrière nous. Ce débat, certainement, les gens vont continuer à le porter, même s'ils pensent qu'ils sont respectueux justement de la fonction et de loi de la République. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Me concernant en tant que juriste, justement, respectueux de loi et règlement de la vie, en particulier la Constitution, je pense que, quel qu'en soit le faiblesse en cas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à partir du moment où le constituant nigérien a fait justement des arrêts de la Cour constitutionnelle, en tout cas leur a conféré une autorité, en tout cas une valeur absolue, une autorité absolue, l'article 134 le dit très clairement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient le pouvoir public et toutes les autorités administratives, civiles et militaires et juridictionnelles. Donc, à partir du moment où ce arrêt est sorti, je pense que les gens doivent respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Et comme je l'ai dit à une occasion, si les gens estiment que M. Bazoum Mohamed ne remplit pas les conditions de l'article 47 alinéa 3 de la Constitution en ce qui concerne la question de la nationalité d'origine, je pense que les gens peuvent s'organiser et débattre dans les jours. De mon point de vue, le débat sur la question de la nationalité, comme vous l'avez dit, doit être considéré comme derrière nous, ayant pris part au premier tour des élections présidentielles, étant arrivé en tête de ces élections. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat en tout cas doit être
derrière nous. Alors, Monsieur Ibrahim Hamidou, lorsque vous entendez cela, on dit la question est résolue puisqu'il y a eu un premier tour et que on devrait plutôt se concentrer sur autre chose. D'autres disent que si l'on se concentre sur la nationalité de Mohamed Bazoum, c'est parce que vous n'avez pas de programme. Est-ce vrai? Est-ce que c'est résolu, définitivement résolu cette question?
Ceux qui écrivent que la question est définitivement résolue sont ceux-là qui ne veulent pas l'expression de la vérité. Alors, M. Alain Foucault, qu'est-ce qu'a dit la Cour constitutionnelle dans son arrêt? Des gens ont attaqué le certificat de nationalité numéro 140 que Bazoum a présenté. Et la Cour est revenue dire à ces gens qui ont attaqué la nationalité de Bazoum que non, cet acte de nationalité numéro 140, Bazoum dit que ce n'est pas pour lui. Il n'en a jamais fait usage et qu'il va poursuivre ceux-là qui l'ont attaqué devant la Cour constitutionnelle pour faux et usage de faux. Voilà ce qu'il a dit à la Cour. Maintenant, la même Cour revient dans un arrêt pour dire que ce même acte numéro 140 que Bazoum prétend ne jamais connaître, ne jamais fait usage, qu'elle l'a retrouvé dans le dossier de 2016 de Bazoum en ce qui concerne les élections législatives de 2016. Et Alain Foucault, le bon sens se recommande de tirer telle conclusion à ce niveau. Dans la mesure où ce n'est pas par devant quelqu'un que Bazoum a montré qu'il mentait, c'est devant la Cour elle-même. Il dit, voilà, je n'ai jamais fait usage de ce document, il n'est pas le mien. Et la Cour, elle sort pour nous dire, voilà, nous, on a retrouvé ce document dans nos archives. Pas dans des archives qui sont ailleurs, dans les archives de la Cour elle-même. Oui. Mais dans le même arrêt, la Cour dit, bon, nous lui avons demandé de nous donner l'original de son certificat de nationalité. À défaut, une copie certifiée conforme. Qu'est-ce que fait Bazoum? Il envoie une photocopie d'un certificat de nationalité qui n'a pas de numéro. C'est la Cour elle-même qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un.
Mais dans le même temps, j'ai envie de vous répondre, Monsieur Hamidou. Lorsqu'il y a eu tout cela, pourquoi être allé aux élections? Alors, il y a eu un premier tour, il y a eu des résultats, et là, vous êtes en train d'aller au second tour. Est-ce que c'est la peine de retourner, de revenir à ce qui s'est passé avant?
Mais vous savez, dès le départ du processus, l'opposition a contesté le recensement biométrique. L'opposition a contesté le code électoral. L'opposition a contesté la composition de la CENI. L'opposition a contesté la Cour constitutionnelle elle-même. Vous comprenez? Mais ne pas aller aux élections, c'est laisser un boulevard. Parce que ce régime fonctionne par le forcing. Et on refuse d'être devant le fait accompli. on crée les conditions pour que les Nigériens soient dégoûtés de la chose politique.
Mais pourquoi ne pas aller aux élections? Pourquoi ne pas aller au scrutin pour le battre dans les urnes si tout le monde est conscient, ou en tout cas si vous êtes persuadé que tout le monde sait qu'il n'est pas de nationalité nigérienne?
Mais c'est exactement ça notre posture. Malgré leur volonté et les différentes astuces qu'ils utilisent pour nous décourager, pour qu'on n'aille pas aux élections, on a décidé d'y aller. Et on va le battre dans les urnes, M. Alain Foucault.
Monsieur Boubacar Sabo, que répondez-vous à tout cela? Puisque ça tourne beaucoup autour de la question de la nationalité, on ne parle même pas encore de programme, mais ça tourne beaucoup autour de la question de la nationalité de M. Mohamed Bazoum.
Et merci Alain Foucault. Et vous savez, par rapport à la question de nationalité, où les gens de l'opposition et certains acteurs de la société s'arc-boutent, en fait, c'est comment faire face réellement à un candidat qui a un programme qui est Bazoum Mohamed. Aujourd'hui, je suis très surpris que des individus puissent même dire que Bazoum Mohamed a un Nigérien d'origine. Même s'il n'est pas un Nigérien d'origine, aujourd'hui, Bazoum Mohamed a montré qu'il aime ce pays-là plus que ceux qui sont en train de crier. Et la réalité, elle est sortie hier ou avant-hier à Tillaberi. Le gros problème de l'opposition nigérienne, en tout cas, son aile extrémiste est dirigée par Hama Amadou, c'est une affaire de racisme. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Bazoum Mohamed a un certificat de nationalité nigérienne. Ce que les gens oublient, c'est que chaque jour, tu peux aller faire ton certificat. Donc, le numéro de certificat n'a aucune espèce d'importance. Ce que dit la loi nigérienne, c'est que tu amènes ton acte de naissance et l'acte de naissance de ton papa ou de ta maman, on va t'établir un acte de nationalité. Donc, le problème ne se pose pas.
Mais vous avez écouté ce que disait à l'instant, les détails que donnait à l'instant Ibrahim Amidou. C'est quand même important. C'est la loi qui le dit, c'est les textes qui le disent.
C'est moi qui ai suivi. Et Alain Foucault, ce n'est plus ni le temps, ni le lieu de vous dire ce qui s'est passé par rapport à ce fameux certificat 170. Et je vous dis, en réalité, ceux qui ont eu à faire cette forfaiture seront poursuivis, Inch'Allah. Nous n'avons pas voulu faire beaucoup de débats par rapport à cette question. Où est-ce qu'ils ont trouvé le certificat de nationalité? Ils disent dans les archives de la Cour constitutionnelle, et on va démontrer, Inch'Allah, le jour du jugement, que ce certificat frauduleux a été introduit même au niveau du dossier de la Cour constitutionnelle des élections de 2016.
Alors, oui, allez-y.
Cas de nationalité avec le numéro 170. Et il ne faut pas, il faut les laisser. La poursuite n'est pas finie. Nous sommes en élection, nous ne voulons pas nous disperser sur ces détails. Comme l'a dit le professeur Boubacar Hassan, c'est un débat qui est tranché maintenant, c'est aller aux élections. Et nous partons à ces élections dans un esprit plein de sérénité. Parce que de toutes les élections du Niger, il n'y a jamais eu une coalition aussi large que celle de Bazoum 2021. Et c'est ça qui fait peur à l'opposition. C'est pourquoi il s'accroche sur les histoires de racisme aujourd'hui.
Monsieur Nuhu Arzika, que répondez-vous à cela? Est-ce aujourd'hui juste un argument pour empêcher que ces élections se déroulent normalement, cette question qui est posée en permanence à Monsieur Bazoum Mohamed?
Je suis sincèrement indigné, profondément indigné des propos que je viens d'entendre de ceux qui prétendent être des juristes. Et en tant que juriste, et qu'ils veuillent bien considérer que et les lois de la République, on peut les violer, on peut les mettre hors de portée et considérer qu'on soit là en train de dire qu'on défend la Constitution. Je suis sincèrement désolé. La Constitution, là, moi, si lui, il est interprète, moi, je suis un acteur de la rédaction de la Constitution. Donc, je sais de quoi je parle lorsque je dis. Et la question de la nationalité d'origine, mais ça n'a pas été écrit en 2010. Nous l'avons discuté à la conférence nationale. À la conférence nationale, ça veut dire qu'il y a 31 ans. Et au moment de faire ce débat-là, donc les questions étaient très claires. Mais à ce moment-là, certainement, les gens n'avaient aucune idée qu'un jour, ils pouvaient avoir des prétentions de ce genre à vouloir être candidat aux élections présidentielles. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est lorsque aujourd'hui, nous sommes dans une situation où lui, M. Boubacar Sabo, qui est en train de vous parler, Il était le représentant de l'intéressé dans l'échange avec la Cour constitutionnelle. La Cour nous dit qu'elle a saisi le tribunal de Diffa, que le tribunal de Diffa lui a répondu que pour une recherche infructueuse. Lorsqu'on fait une recherche pour authentifier un document et qu'on dit que la recherche est infructueuse, et malgré tout, on passe outre, alors qu'à la source où on est censé trouver les raisons de l'authentification du document, je suis vraiment désolé que l'on me dise que c'est un arrêt qui doit s'imposer aux gens, que c'est un arrêt sans recours. Il n'a pas du tout compris que l'arrêt en matière électorale n'est pas sans recours dans la mesure où dans le code électoral, qui est le code qui complète la Constitution, on a prévu la possibilité de réclamation et ces réclamations-là, en cette matière-là, peuvent bel et bien se faire, même si la Cour a fini par rendre un arrêt. Dès qu'il y a des éléments nouveaux, il est possible de refaire, si ce n'était pas
oui, le mais cas. Est-ce que dans ce cas, pensez-vous que l'on puisse revenir à la présidentielle, au premier tour? Là, lorsque vous dites ça, ça veut dire qu'on annule le premier tour, alors que tout le monde y a participé, finalement?
Monsieur Alain Foucault, moi je m'en fous de tout, parce que je ne suis pas candidat, je n'ai pas de candidat, je suis un Nigérien acteur de la société civile, je n'ai pas un parti pris sur les candidats. Moi, ce qui m'intéresse en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que défenseur de la démocratie, défenseur de cette cause pour laquelle nous avons investi tant et toute notre vie, que personne d'entre eux là qui est en train de parler, certains qui font des luttes de positionnement, qui cherchent à se positionner parce qu'ils veulent plaire à X ou à Y. Moi, je n'ai personne à qui je dois plaire en dehors de mes convictions. Et c'est le peuple nigérien pour lequel je me bats depuis toujours. Et la constitution de notre pays pour laquelle nous avons juré loyauté, fidélité et respect à cette constitution-là. Donc maintenant, l'article 121 du code électoral a clairement dit que lorsqu'on aura à vérifier l'authenticité et l'information, quand on a un élément sur l'inéligibilité qui peut être détecté plus tard même, il est possible donc de revenir sur ça. Et l'article 121 a dit que c'est une cause de nullité des élections. Bon. Et nous pensons que...
Pour vous, vous partez vers la nullité de l'élection alors?
Bien sûr, parce que mais actuellement le dossier, comme il a dit M. Boubacar Sabo, mais... Il dit qu'on préfère le certificat de nationalité à tout moment. Mais pourquoi diantre si on dit qu'il y a un problème sur un certificat de nationalité délivré depuis depuis juillet, s'il pense qu'on peut le refaire à tout moment? C'est pour ça qu'ils ont été amenés à refaire, après avoir bénéficié d'un certificat de nationalité qui avait le numéro 140, ils ont eu besoin de refaire un autre certificat avec un autre numéro.
Alors là, je vais me tourner vers le constitutionnaliste qui va vous répondre, Amadou Hassan Boubacar. Docteur, est-ce que ce que dit Nuhu Arzika est possible? On est au deuxième tour, est-ce que c'est envisageable?
Merci, monsieur Alain Fakor. J'ai dit à mon grand frère Nuhu Arzika un peu de modestie. Je pense qu'on ne peut pas faire du droit constitutionnel par intuition. En réalité, contrairement à ce qu'il a dit, ce n'est pas à la Conférence nationale que la notion de la nationalité d'origine a été introduite dans le droit positif nigérien, bien au contraire. Pour la première fois, c'est au niveau de l'article 26, alinéa 3 de la Constitution du 24 septembre 1989, la Constitution de la Deuxième République, qui dit clairement qu'il est éligible à la présidence de la République tout Nigérien de nationalité d'origine âgé de 40 ans au moins existant de ses droits civils. Il peut le regarder au niveau du jour spécial numéro 3 de 1989. Donc je pense qu'il faut qu'il reste...
Alors, je souhaiterais que ce débat ne soit pas totalement consacré à la question de la nationalité. Il y a une élection. Je suppose que les candidats ont un programme, que l'on peut discuter aussi de programme. J'espère qu'on ne va pas discuter que de la nationalité en attendant que les juristes, si c'est le cas, fassent leur travail. Je souhaite que dans la seconde partie de ce débat, nous parlions aussi de programme, nous parlions d'avenir, nous parlions aussi de bilan. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui au second tour de la présidentielle au Niger. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après le journal. À très vite.
Bonjour.
Débat africain. Alain Foucault.
Qui pour succéder à Mahamadou Issoufou à la tête du Niger? Si l'alternance à la tête du pays est certaine, puisque le président sortant au bout de deux mandats a respecté la Constitution, le scrutin du 21 février prochain s'annonce très ouvert sur fond de contestation de la nationalité du candidat Bazoum Mohamed arrivé en tête au premier tour. Après les alliances et les coalitions qui se sont formées de part et d'autre pour soutenir les deux candidats, les Nigériens suivront-ils les consignes de vote? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain spécial élection présidentielle du second tour au Niger. Avec sur ce plateau quatre invités, acteurs de la vie politique de ce grand ensemble situé à la porte du désert du Sahara. D'abord, M. Boubacar Sabo, le secrétaire aux élections du comité exécutif national du PNDS Taraya, le parti au pouvoir, et président de la commission électorale de la campagne du candidat Mohamed Bazoum. Notre second invité est M. Ibrahim Hamidou, journaliste, membre de la cellule de communication de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021, coalition qui soutient Mahman Ousmane, le candidat du renouveau démocratique et républicain RDE Tchangi. Troisième invité de ce plateau présidentiel Niger, Dr. Amadou Hassan Boubacar, juriste constitutionnaliste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Notre quatrième invité aujourd'hui est Nuhu Arzika, acteur de la société civile, président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie en parlant essentiellement de la nationalité ou non du candidat Mohamed Bazoum. Une chose est certaine, il est passé au premier tour. Je me tourne vers Hamidou Amadou pour demander, est-ce que vous pensez que c'est le principal débat. Certains disent que si vous vous arc-boutez dessus, c'est plus parce que vous n'avez pas de programme et que M. Mahman Ousmane est un candidat de dernier moment, un candidat pour répondre à l'absence des principaux qui ont été exclus. Est-ce vrai, Ibrahim Hamidou?
Monsieur Alain Fauta, vous pensez que dans le programme de la Renaissance Acte 2, il y a la construction d'un échangeur sur 26 mois à 45 jours de la fin du mandat. Donc, tout cela qui vous brandissent programme, c'est juste de l'enfumage. Ils veulent juste montrer qu'ils ont, comme on dit ici, ils ont le illimi. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent ce pays, M. Alain Fauta. Si leur programme nous a amené 10 ans derniers en indice de développement humain. C'est ce genre de programme qu'ils vendent ou bien c'est quoi?
Mais ils vous disent qu'ils ont un bilan positif.
Il y a une enquête petite récente en juillet 2020 à l'intérieur de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a dit que le Niger a le plus grand nombre de taux de pauvres, 75,25%. Je dis bien 75,25%, ce n'est pas l'opposition qui l'a dit. Le dernier en indice de développement humain, non plus ce n'est pas l'opposition qui le dit. Donc quand ils vous brandissent des programmes, c'est juste pour cacher l'échec retentissant, la misère dans laquelle ils ont plongé ce pays. C'est des débats qui ne veulent pas sur la réalité concrète. Comme ils fuient le débat sur la réalité concrète, ils présentent des papiers. Non, nous on discute sur le vécu des Nigériens, sur le ressenti des Nigériens, sur la réalité de la vie de tous les jours des Nigériens. On ne s'écrit pas sur des bouts de papier. Vous comprenez?
Mais les chiffres parlent en faveur du bilan du candidat sortant avec les infrastructures, avec ce qu'il a pu réaliser.
C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est des chiffres qu'il fabrique sur papier. La réalité du Niger, le ressenti des Nigériens, c'est tout autre chose. Quel chiffre peut parler en faveur d'un système politique qui a mis son pays 10 années durant et de manière consécutive dernier en indice de développement humain? Vous croyez à des chiffres qui viennent d'ailleurs qui peuvent contredire cette situation? Non, Alain Foka. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de débat sur la réalité concrète, sur le vécu des Nigériens. C'est pour ça que nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Nous, cette élection, on l'aperçoit comme un plébiscite pour notre candidat.
Bien. Monsieur Boubacar Sabo.
Merci. Vous voyez, Alain Foka, avec quelle classe politique ou avec quelle opposition nous discutons, une opposition qui pense que tout doit être empirique et que tout doit faire ce temps. Depuis 1993, le PNDS Taraya a toujours eu un programme sur lequel nous nous sommes adossés pour demander le suffrage des Nigériens. Et c'est la même chose cette fois-ci, après un bilan globalement positif reconnu par tous les Nigériens sincères et toute la communauté internationale, nous allons adosser cette fois-ci aujourd'hui notre politique à travers un programme que nous avons intitulé « Programme Renaissance 3, consolider et avancer ». Et ce programme est porté à ce deuxième tour par notre candidat Bazoum Mohamed et 95 autres partis politiques, dont le MNSD, le Seine Omar, le MPR Jamouria de Albadé, qui sont troisième et quatrième au premier tour. C'est le prolongement des deux autres programmes sur la base desquels les Nigériens et les Nigériennes ont mis le pays dans les mains de Mahamadou Issoufou.
Mais dans le, même temps, les gens ont envie de vous dire qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en 10 ans que vous allez faire maintenant.
Nous savons qu'on ne peut tout faire. C'est pourquoi nous considérons que malgré les progrès enregistrés lors de ces 10 dernières années, les défis énormes persistent et notre candidat les affrontera avec détermination en vue de réduire sensiblement la pauvreté et donner une espérance à notre jeunesse. Vous savez, Alain Foucault, le gros problème de l'opposition nigérienne, c'est qu'elle n'a jamais eu de programme. Ils vont aux élections au PIB. Donc maintenant, c'est l'offre politique de Bazoum Mohamed qui a engendré les 40% de l'électorat au premier tour.
Alors,
les travaux d'un échangeur à 45 jours de la fin du mandat, un échangeur qui soit prévu dans un programme. Non, mais écoutez, soyez sérieux, c'est gens du PNDS, ils ne sont pas sérieux. Comment on va venir nous dire que c'est dans un programme, mais on lance les travaux de l'échangeur à 45 jours du fin du mandat. C'est ça le programme. J'ai entendu dire qu'ils ont fait des progrès. Les progrès, là, c'est pour nous conserver 10 années consécutives, dernière année de développement humain. Il y a 2 millions de Nigériens cette année qui sont menacés de famine. L'État du Niger a officiellement demandé plus de 230 milliards de francs CFA pour leur venir en aide. L'insécurité s'est généralisée dans ce pays.
On va parler d'insécurité dans un instant. On va parler d'insécurité dans un instant puisque c'est l'un des défis. Mais avant de passer à nous, Arzika, je voudrais quand même qu'il vous réponde en deux mots, Boubacar Sabo.
Oui. Donc vous voyez, nous, ce qu'on veut, le renforcement de la démocratie dans notre pays, c'est de faire des offres politiques. Pas entre nous. Ce diagnostic qu'il est en train de faire, nous le faisons et c'est sur la base de ce diagnostic que nous projetons ce que nous allons faire d'ici 2026 et quelle situation nous allons laisser en 2026.
Oui, mais dans le même temps, il vous dit vous lancez ce chantier à la veille de votre départ du pouvoir. Pourquoi ne l'avoir pas fait pendant les 10 ans où vous étiez là?
C'est pourquoi nous avons dit que le programme de la Renaissance 3 consolidée et avancée, c'est une prolongation du programme de la Renaissance acte 1 et 2. C'est produit au niveau de du programme Renaissance Acte 2. Donc on ne va pas, parce que le président Issoufou va quitter, qu'on va dire qu'on ne va plus faire ce mandat. On consolide et on continue.
Alors, M. Nour Arzika.
Oui, M. Alain.
Une réaction à ce programme.
Non, écoutez, M. Alain, j'ai suivi et je vous attendais à cette phase de notre échange. Justement, la question de l'essentiel qui est, quelle réponse, quelle solution ceux qui prétendent vouloir gouverner notre pays ont face aux véritables préoccupations de notre peuple en termes des attentes. Et j'entends souvent les gens parler des programmes à gauche à droite. Monsieur Alain Foucault a noté que le véritable programme est dans la Constitution du Niger. La Constitution du Niger a défini ce que chaque gouvernement doit faire agissant au nom de l'État. Agissant au nom de l'État, on a prévu tous les droits qui sont consacrés aux citoyens nigériens, le droit à l'éducation, à la santé, à un logement décent, le droit à un environnement sain, le droit à la sécurité, le droit, ainsi de suite. Et nous avons dit, dans un des titres de la Constitution, on a parlé de l'obligation qui est faite en termes d'options de développement, on a engagé l'État sur des chantiers à faire, même les ressources à mobiliser en termes de ressources, les retombées du sol et du sous-sol, on a indiqué la conduite à tenir par rapport à ces ressources-là. On a dit qu'est-ce qu'il faut en faire. On a engagé l'État à lutter pour l'indépendance énergétique, étant entendu qu'on a considéré que c'est la colonne vertébrale véritable des conditions sur lesquelles aujourd'hui...
Une fois que vous avez énuméré, qu'est-ce que vous avez envie de dire très concrètement?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand j'entends souvent les gens dire qu'ils ont un programme, et aujourd'hui nous sommes à la fin des 10 années du programme de Issoufou qu'il a présenté pendant 10 ans. Moi, je prends sur l'aspect gouvernance, le mois le plus important chez moi, c'est lorsque le président Issoufou, le 7 avril 2011, le président Issoufou a pris un engagement très fort et que tout le monde a applaudi, c'est qu'il a dit qu'il va s'engager à lutter contre, pour la gouvernance, hein, à lutter contre l'impunité, à lutter contre la corruption, contre l'économie criminelle, à lutter pour le monopole fiscal de l'État. Et quand on fait le point sur les quatre éléments de l'engagement que le président Issoufou a pris en disant que dans l'océan des intérêts individuels, sa boussole sera l'intérêt général. Et nous avons tous applaudi parce qu'on l'a attendu là. Et moi, personnellement, c'est sur cet aspect-là que si je dois apprécier ou juger, c'est cet aspect-là qui m'intéresse aujourd'hui en termes de gouvernance.
Alors
maintenant, tout le reste, que les gens vous avez entendu, on a fait ça, on a un programme. Est-ce qu'ils ont suivi le programme? Ils ont, on a fait le PDS, je rappelle ça à M. Boubacar Sabo, le PDS 2012-2015, quel est le bilan? Le PDS 2017-2021.
C'était quoi le PDS?
Le PDS, c'est le programme de développement économique et social qui est censé avoir pris les différents actes du programme de la Renaissance Acte 1 pour le PDS 1 et de 2012-2015 et le PDS 2. 2017-2021, ils ont décliné un certain nombre d'actions à mener. Mais il n'a qu'à aller faire le bilan pour voir. Moi, j'ai le document devant moi, et concrètement, du point de vue de... Maintenant, là, je ne peux pas aussi manquer de politesse ou de sens de justice, parce que, justement, il y a des situations qui sont venues contrarier. Et nos attentes, c'est la première situation, c'est l'insécurité.
Justement, je voulais qu'on parle d'insécurité, puisque curieusement, jusqu'à maintenant, on parle de programme et on n'a pas parlé de la plus grosse menace qui pèse sur le Niger, ces djihadistes qui attaquent régulièrement et qui font des morts, même dans des camps militaires. Est-ce que ce n'est pas ça la réelle préoccupation? Et est-ce que les candidats se sont engagés dans ce sens-là, Boubacar Sabo?
Merci. Je ne vais pas revenir sur le bilan, mais le bilan, nous avons toujours eu une question de redevabilité au niveau du président Issoufou Mamadou, et il a fait régulièrement à travers le Premier ministre le bilan de toutes ces actions qui sont disponibles sur tous les sites du gouvernement.
Là, pour l'instant, je voudrais qu'on parle d'insécurité parce que le temps tourne vite et qu'on risque de ne pas parler du principal sujet qui concerne le Niger.
C'est quelque chose qui nous tient sérieusement à cœur dans la mesure où notre pays est sur ces 1 267 000 km² est assailli de foyers de tension ou de foyers carrément terroristes. C'est notamment la situation au niveau des trois frontières, et donc Niger, Mali, Burkina. C'est la même chose au niveau de la Libye, c'est la même chose au niveau du bassin du lac Tchad, et dans une moindre mesure, les situations de sécurité à la frontière nigériane au niveau de l'État, et disons de la région de Maradi et un peu la région de Kawa à travers Koni. Donc, face à cette situation, nous avons pris des mesures et l'État est resté debout. C'est important de le reconnaître.
Oui, mais dans le même temps, quand vous dites ça, on sait qu'il y a eu pas mal de victimes, on sait qu'il y a eu pas mal d'attaques ces derniers temps et qui se rapprochent de plus en plus de la capitale Niamey. Aujourd'hui, le candidat Bazoum Mohamed a-t-il une solution pour mettre fin à cette avancée des djihadistes? De façon très concrète, parce que le temps tourne vite.
Le président Bazoum Mohamed, là aussi, est élu, a beaucoup de solutions, a des solutions pertinentes par rapport à cette situation, parce que non seulement il a été ministre qui était chargé des actions de ces questions au niveau de la sécurité intérieure, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, et il a participé activement à la définition du nouveau concept qui fait que depuis quelques mois, vous n'entendez plus des attaques meurtrières contre l'armée parce que la doctrine a changé. Nous n'avons plus de postes fixes au niveau des frontières, mais l'armée elle-même s'est professionnalisée, s'est adhérée et elle s'est devenue plus mobile qu'avant.
Mais lorsqu'on écoute les officiers de l'armée, ils disent que non, les choses ne vont pas mieux forcément et que Bazoum Mohamed appartenait à ce gouvernement-là pendant toute cette période, que les choses ne vont pas mieux.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Effectivement, quand nous avons changé le commandement, quand le gouvernement a changé le commandement au niveau de l'armée, il a aussi procédé à un changement de la doctrine opérationnelle. Et c'est ce qui a fait que l'armée aujourd'hui, l'armée nigérienne en tout cas, a eu beaucoup de succès sur les groupes terroristes, aussi bien au niveau de Difa, au niveau de la frontière Mali et au niveau des trois frontières.
Bien. Là, je me tourne vers Ibrahim Hamidou. Sur la question de la sécurité, de façon rapide, quelle proposition et pensez-vous que vous avez la solution pour mettre un terme à cette avancée des djihadistes sur le territoire?
Avant d'aller aux propositions, il faut d'abord faire le diagnostic. En ce qui concerne le diagnostic, il faut reconnaître que le développement de l'insécurité chez nous est lié à la politique conduite par le président Issoufou lui-même dans le secteur. On était en 2015 quand il est venu tenir un discours à la place de la constatation pour dire que le Niger sera le tombeau de Boko Haram. En 2015 n'a entendu Boko Haram attaquer le Niger. Il avait son programme, je ne sais pas d'autres le tien. En tout cas, et il a provoqué l'insécurité. C'est le président Issoufou qui a provoqué l'insécurité au Niger.
Comment ça?
En déclarant la guerre à Boko Haram.
Ne fallait-il pas déclarer la guerre à Boko Haram?
Au moment où il a déclaré la guerre à Boko Haram ne s'en prenait pas au Niger. On peut protéger nos frontières sans déclarer la guerre à Boko Haram. On n'a pas les ressources pour faire la guerre. Nous, on cherche les ressources pour développer la santé, l'alimentation, l'éducation des Nigériens. Or, aujourd'hui, l'éducation est à terre au Niger. La santé est à terre au Niger. Et on n'a pas de sécurité, vous comprenez? Même l'argent qu'ils prétendent, c'est pour ça que j'ai dit, ne vous fiez pas à leur programme, ne vous fiez pas à leur bilan. Ils ont déclaré qu'ils ont investi des centaines de milliards pour la défense nationale. Vous avez un audit à relever que c'est de l'argent qui a été détourné entre eux. Donc ne vous fiez pas à ce que vous écrivez sur le papier. Les Nigériens connaissent la réalité. En matière de sécurité, c'est tout cet état de choses qu'il faut changer. Y compris revoir le cadre de partenariat avec les forces étrangères qui sont stationnées sur notre territoire. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas très longtemps, le président Issoufou disait que tout celui qui critique la présence des forces étrangères sur notre territoire est pire que les djihadistes. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les Français eux-mêmes ont pris l'initiative de se désengager partiellement au Sahel. Et je pense que la question du terrorisme au Sahel, comme elle s'impose aujourd'hui, c'est aux Sahéliens d'abord de trouver la solution.
Malheureusement, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin puisque le temps tourne vite. J'ai envie de donner la parole en dernier au docteur Amadou Hassan Boubacar. Aujourd'hui, on est à quelques jours, à une semaine exactement de ce scrutin-là. Est-ce que vous êtes optimiste pour ce qui est de la sécurité?
Merci, M. Alain Foucault. Justement, j'ai même voulu intervenir quand Ibrahim Hamid. Je pense qu'il quand même représente un candidat, le président Ousmane, qui a le 7I de l'émergence comme programme. Effectivement, il y a un volet sécurité, peut-être que justement Ibrahim Hamid aurait dû nous en parler, au-delà de la question justement du bilan du candidat, en tout cas de la Renaissance qu'il critique. Il aurait dû bien voulu, en tout cas, j'aurais bien voulu entendre un peu le volet équité de 7I du président Ousmane. Maintenant, pour ce qui concerne la sécurité, je pense que, comme ils l'ont dit, c'est un défi aujourd'hui. Que ça soit le président Ousmane qui a bel et bien un programme de 7I de l'émergence, c'est le dernier point de l'équité qui concerne l'accès, gouvernance et justice et sécurité, que ça soit le président Ousmane et le président Bazoum, dit qu'ils vont consolider et avancer. Le premier défi, justement, c'est la question de la sécurité. Aujourd'hui, on a l'impression que pendant le premier mandat, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le sens de la sécurisation des personnes et des biens, en tout cas, contrairement au Mali et au Burkina. Le Niger était quand même un maillon assez fort avant que peut-être les attaques de beaucoup.
Oui, il y a eu quelques attaques qui sont venues un peu ternir cette image-là. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission consacrée au second tour de la présidentielle au Niger. Merci Monsieur Boubacar Sabo, président de la commission électorale de la campagne du candidat Mohamed Bazoum, Ibrahim Hamidou, membre de la coalition pour l'alternance politique et soutien du candidat Mahamane Ousmane, Dr Amadou Hassan Boubacar, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, et Nuhu Arzika, acteur de la société civile et président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et espère que ce scrutin se déroulera sans accroc et dans la paix. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Quatre ans après sa création.